Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifranceuniversité.fr.
Les conquérants, une histoire humaine de croissance externe. Épisode 3, dans la tête 2.
Dans cet épisode de cette série de 5 podcasts, nous retrouvons une discussion entre Fabrice Prost, président de HEF, Xavier Naze, président du groupe Naze, et en fin d'épisode, Stéphanie Frachet, directrice investissement BPI, qui vous partagera son expérience. Je suis Pierre, fondateur de Toutac et animateur de podcast, et je jouerai le sparring partner de nos 3 invités. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pierre.
Bonjour Xavier.
Bonjour Pierre.
Alors là, c'est quand même drôle parce que j'ai dit bonjour Fabrice, c'est Xavier qui a répondu. J'ai dit bonjour Xavier, c'est Fabrice qui a répondu.
Ah, ça te dit au combien on est fusionnel.
Exactement. Eh bien, dans ce troisième podcast, j'aurais aimé entendre de votre part que vous projetiez et que vous témoigniez dans ces phases d'acquisition de ce qu'il y a dans la tête d'eux. Alors, dans la tête de vos salariés, des équipes, des salariés que vous rachetez, et puis dans la vôtre. Finalement, dans ces phases de rachat, ou à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe? De l'excitation ou pas?
Alors, de l'excitation dans la tête des acquéreurs, je ne crois pas trop me tromper en me disant que oui, il y a de l'excitation. C'est un nouveau projet, un nouveau business potentiellement, des nouvelles choses. Un dirigeant par nature aime normalement bien la nouveauté. Donc oui, c'est quelque chose d'assez excitant pour les acquéreurs. Et je pense qu'il est assez important de se placer dans la tête des autres parties, effectivement, notamment des salariés et du vendeur. Et il est aussi primordial que vous arriviez à faire passer le message de qui vous êtes, pour qu'il n'y ait pas trop d'interprétations ou de mauvaises interprétations dans la tête de toutes les parties prenantes dans un deal, et aussi qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on vous cerne assez vite. Malheureusement, c'est pas toujours possible parce qu'on vous permet pas toujours de rencontrer les collaborateurs. Ouais. Les cédants, généralement, veulent conserver une forme de confidentialité et de discrétion le plus longtemps possible, ouais, pour pas perturber l'entreprise et compagnie. Donc, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, c'est bien de montrer qui vous êtes, de montrer votre vrai visage aux collaborateurs qui vont être rachetés. Parce que c'est une angoisse pour eux.
Fabrice, dans ta tête, dans la tête de Fabrice.
Moi, j'ai bien aimé ce que disait Xavier, en fait, c'est comment se présenter sans se survendre ou sans se sous-vendre. Ouais. Comment se présenter sous son vrai jour. Je crois que c'est important de créer auprès des gens que l'on va côtoyer après le rachat des espoirs réalistes. Mmh. Alors, il faut que des espoirs soient là, bien sûr, parce que sinon, on ne se projette pas. Et réalistes parce que sinon, ils sont déçus. Et la déception tue la motivation. Mmh. Finalement, le rôle du dirigeant, ça va être de savoir bâtir ensemble quelque chose de réaliste pour la suite qui va constituer le fil conducteur de la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe? À mon sens, les gens se disent, mais est-ce qu'ils vont racheter pour fermer? Mmh. Souvent, on rachète des concurrents, donc ça peut vraiment être une grosse question. Et puis, qui va diriger? Est-ce que le pouvoir va être loin? Souvent, c'est des entreprises isolées qui, du coup, rentrent dans un groupe. Donc, ils disent, finalement, on voyait le dirigeant, on avait la décision en montant l'escalier. Là, comment ça va se passer? Et puis, tu évoquais qu'est-ce qui se passe dans la tête des collaborateurs de l'entreprise qui rachète.
Oui.
Alors là, je te disais, on est dans une entreprise d'actionnaires salariés,
oui,
qui détiennent 2/3 du capital. Donc, ce qui se passe dans l'entreprise de nos gens, c'est aussi quel risque on prend, nous, en tant qu'actionnaires et en tant que salariés. Alors, en tant que salarié, c'est est-ce qu'on va savoir digérer cette acquisition? Est-ce, ouais, qu'on a la bande passante, le temps, l'énergie? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'on va fitter avec l'entreprise qu'on accueille?
Ouais.
Et puis, en tant qu'actionnaire, est-ce que le risque que l'on va prendre, puisqu'il y a toujours une part de risque, est raisonné, s'intègre bien dans ma perception de là où va l'entreprise? Toutes ces questions se bousculent. Donc effectivement, il y a des questions dans tous les sens. Et vraiment, le rôle du dirigeant, en interne comme en externe, c'est d'arriver à ne pas vendre du rêve, mais à vendre une histoire qu'on va pouvoir écrire pour embarquer, d'accord, tout le monde, quoi. Ouais. Et là, il y a une passe délicate. Passe délicate où c'est la phase où le dirigeant va devoir faire un peu son show, entre guillemets, se présenter aux équipes, accepter les questions, questionner à son tour, et où bah, le fluide passera ou passera pas. Et puis souvent, ça passe ou ça passe pas, on le sait plusieurs jours plus tard. Sur le coup, c'est assez difficile de percevoir les choses.
Tu veux dire que les gens, dans une phase, et là on parle plutôt de la société qui est rachetée,
oui,
vont pas se dévoiler. Je mets de côté un peu les dirigeants dans un premier temps, parce que tu les as rencontrés, et après on parlera des 100 premiers jours dans le quatrième podcast, mais les gens ne se dévoilent pas par crainte.
Alors, ce que j'essaye d'exprimer, c'est que bien souvent, le vendeur, s'il tient à ses équipes et s'il travaille en proche collaboration avec elles, il va inviter des collaborateurs à la discussion.
D'accord.
Pas partout, pas dans toutes les phases, mais il y aura un moment, on va dîner ensemble, il y aura un moment, ils vont assister à une présentation de l'entreprise pour connaître l'identité de l'acheteur, se faire un avis, etc. Et en fait, c'est dans ces moments-là que ça se joue. Parce que ce qui est à peu près sûr, c'est que le vendeur, suite à ces réunions, va débriefer avec ses collaborateurs.
Oui.
Parce qu'il aura besoin de savoir si les collaborateurs embarquent sur le projet ou au contraire ont un regard qui fait qu'il ne faut pas y aller, quoi. Voilà. Donc, il se joue beaucoup dans ces moments-là, à mon sens. Ce sont des moments de vérité. Donc, il faut être très en vérité, à mes yeux. Parce que c'est la condition pour que finalement le verdict soit le bon. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, d'ailleurs.
Et de ton côté, Xavier, tu viens, Fabrice, de parler de risque. Donc, si on est dans la tête, il y a dans la tête de la famille, c'est-à-dire vous deux, et donc, il y a un risque patrimonial. Est-ce que ça te fait gamberger aussi ?
Oui, alors on essaie de prendre des risques jusqu'à présent qui sont mesurés, parce qu'effectivement, il y a une dimension patrimoniale.
Mais entre l'excitation de se dire j'ai un joli truc et le risque, il y a cet équilibre quand même. Comment tu le trouves ?
Ouais, bah
il y a une dimension de jeu.
On finit toujours par se dire c'est super, mais
ouais.
Si tu veux, il y a toujours un mais parce que le mais c'est la part de risque.
Ouais.
Oui, on est excité parce que on a fait le choix d'acquérir une nouvelle société, mais effectivement il y a le risque que ça se passe pas comme on l'a imaginé.
D'accord. Et est-ce que une manière de lever ce risque pour l'un et pour l'autre, hein, toujours dans la tête d'eux, qu'est-ce que vous faites des clients de l'entreprise que vous approchez ? Est-ce que dans la phase de préparation, de négociation, est-ce que vous savez ce qui va se passer dans leur tête ? Est-ce que c'est important ?
On est dans un secteur où il y a peu de clients puisque on travaille essentiellement avec des concessionnaires de réseau, donc il y en a pas pléthore. La dernière société qu'on vient de racheter est quasiment mono client avec la SNCF.
Oui.
En phase d'acquisition, on a demandé à rencontrer le client pour avoir l'avis du client sur la structure.
Oui.
Est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de ce prestataire ? Est-ce qu'ils ont l'intention de continuer à travailler avec ou pas ? Voilà, c'est capital, parce que si vous perdez votre seul client, vous pouvez fermer le lendemain matin.
Pour l'espèce, quand tu le rencontres, tu poses toutes les questions. Et la SNCF t'a répondu, t'as l'impression, assez ouvertement ?
Si tu veux, on a profité là d'une revue un peu annuelle, un exercice qu'ils font avec leurs prestataires pour se présenter.
Ouais.
C'est pas une réunion qui a été provoquée dans le but de présenter les nouveaux propriétaires ou les futurs nouveaux propriétaires de la structure. Mais on a profité de cette occasion, de cette revue annuelle, pour être présenté. Et si tu veux, on a laissé dérouler la présentation de SNCF avec leur appréciation du prestataire. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quelles sont les perspectives de business. En l'occurrence, ça a été une discussion qui a été assez ouverte, dans la mesure où on a vite compris qu'ils étaient plutôt très satisfaits de la boîte qu'on était en train de racheter. Ça n'a pas été nécessaire de creuser, d'approfondir, de les rappeler après en off en disant non mais on a un doute par rapport à notre échange, tout ça. Ça n'a pas du tout été de cette nature-là, donc il n'y a pas eu de nécessité à creuser davantage parce que ça s'est vraiment bien passé.
Et de ton côté, est-ce que tu essayes de rentrer dans leur tête ?
Alors, je trouve que le sujet des clients, il est important effectivement parce que souvent c'est ça qu'on rachète.
Ouais.
On rachète un outil industriel, puis surtout ce qu'il nourrit, donc les clients. Donc c'est avec les collaborateurs le deuxième cœur de sujet dans l'humain,
oui.
Donc compliqué. Et nous, notre perception de ce sujet-là, c'est que à la fois quand on demande, comme l'évoquait Xavier, à voir les clients, et maintenant on l'a systématisé.
D'accord.
Les 5-10 plus gros clients dans notre process de due diligence, on demande à s'asseoir avec eux.
Ok.
Alors ça, un premier élément de positivité, c'est que du coup les clients sont informés qu'il y a une vente. Donc la séquence information est derrière nous avant de faire le deal.
D'accord.
Ça c'est quand même important parce qu'il y a moins de surprises. Deuxièmement, les clients ont des questions sur « Ok, vous rachetez, mais finalement, vous allez en faire quoi de la boîte ?» Donc, il y a presque un deuxième deal qui se pose avec les clients. En tout cas, si c'est des clients qui tiennent à ce fournisseur. S'ils ne demandent rien, ce n'est pas très bon signe. Mmh. Et puis, troisièmement, il y a une part qui, à mon sens, n'est pas très objective. C'est que quand vous demandez à un vendeur qui vous présente les clients, il va présenter les clients au travers de l'interlocuteur qui l'arrange.
Bien sûr.
Et là, en fonction du niveau d'intimité entre l'interlocuteur en question et le vendeur, bon, le gars, est-ce qu'il nous dit tout, quoi ? Et comment il organise la réalité ?
Mais ça se sent quand même peut-être aussi dans un entretien.
Voilà, effectivement, ça peut se sentir. Simplement, quand tu fais un process de due deal un peu systématique où tu enchaînes 10 clients et tu confies ça à un tiers...
Ouais.
Tu vois pas toujours.
Tu peux passer à travers.
Tu peux passer à travers.
Ouais, ouais.
Et alors, d'autant plus, si finalement il y a un deal qui s'est posé en sous-main, un des acteurs de l'entreprise qui n'est pas pour le rachat a décidé de partir, de monter une boîte concurrente et de dealer avec les clients.
Oui.
Alors là, on est à peu près sûr qu'on ne nous le dira pas.
Ouais.
Parce qu'on nous organisera une belle scène de théâtre pour nous faire croire que tout va bien. Et puis, on découvrira quelques mois plus tard qu'en fait, le client part et que c'était cousu de fil blanc. On a vécu ça, le monde chinois et peut être comme ça, par exemple. Mm. Et en fait, on est tombé dans un piège. Mm. Pas forcément tendu par le vendeur, mais que c'est ses collaborateurs qui, finalement, on découvre après qu'ils étaient contre le deal et ils partent.
Et ils partent.
Et ils montrent quelque chose contre. Mm. Ça peut arriver. Et c'est en ce sens que cette due diligence, elle est intéressante, mais elle garde une part de subjectivité importante.
Je reviens un peu en arrière parce que je me perçois que je n'ai pas creusé un point avec toi, Xavier, et particulièrement parce que c'est une entreprise familiale. On parlait de la perception des salariés en interne. Quand tu as commencé, je crois que c'était il y a 6 ans, à racheter des sociétés, qu'est-ce qui s'est passé en interne chez toi ? Quand on rachète une boîte qui faisait 50%, j'ai l'impression quand même que ça ne peut pas aller sans un impact sur les 60% autres. Et comment ça a été vécu ?
Tu as entièrement raison. Aujourd'hui, il y a eu des craintes. Aujourd'hui, elles sont un peu dissipées parce que le temps est passé. Ils se sont rendus compte que pour le moment, on n'achetait pas trop mal.
Ouais.
Mais effectivement, les collaborateurs ont trouvé que certains ont pu trouver qu'on se mettait en risque. Et ils n'ont pas trouvé forcément le sens que nous, on a trouvé. Après, c'était à nous de les rassurer. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est un peu dur pour nous. Ou si tu veux, à l'origine, il y avait une filiale qui faisait 95% du chiffre d'affaires du groupe.
Ouais.
Aujourd'hui, ils en font 50%. Ouais. Ils peuvent se sentir un peu parfois délaissés. Quand ils voient que Olivier et moi, on consacre beaucoup de temps dans les autres filiales. Et ils avaient aussi l'habitude d'être un peu maternés. Parce qu'on était très présent, tout le temps.
D'accord.
Là, omniprésent dans la société, dans les agences, tout ça. Et forcément, avec le temps et avec le périmètre qui s'élargit, même si on reste très impliqué dans l'opérationnel, surtout Olivier d'ailleurs, ils peuvent parfois avoir le sentiment d'être un peu délaissés.
Et tu as donc misé sur les équipes en place pour les faire monter en niveau. Tu leur as expliqué ou ça s'est fait dans le temps un peu naturellement ?
Ça s'est fait un peu dans le temps naturellement.
D'accord.
Effectivement, à un moment donné, avec Olivier, on a eu besoin de réduire notre nombre d'interlocuteurs parce que on était quelque part trop proche d'un trop grand nombre de personnes.
Ouais.
Donc, il faut des relais, il faut des strates intermédiaires de management, de direction. Typiquement, les sociétés qu'on a rachetées, il y a systématiquement un patron qui, lui, est l'interlocuteur au quotidien, qui prend beaucoup de décisions à notre place. Et quand il a un doute, il nous appelle. Ce qui est moins vrai sur la structure d'origine, c'est encore nous qui prenons l'essentiel des décisions.
Ok. Et j'aurais voulu, pour clore cette partie dans la tête 2, parler de vos concurrents. Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions sur les réactions possibles des concurrents, sur ce qui peut advenir dans des bassins, donc du sud-ouest par exemple, à un moment donné peut-être que t'en rachètes une, deux, bah, il se dit mais attends, il commence à être un peu gros celui-là, ou toi peut-être pareil sur des pays où vous avez racheté plusieurs structures. Est-ce que vous travaillez sur la stratégie des concurrents et de ce qu'il peut y avoir dans leur tête?
Alors nous, on est dans un métier où on s'appelle pas concurrent, on s'appelle un confrère.
Je reprends ma question.
Non, mais évidemment, on a des...
C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup ensemble aussi dans le BTP.
Régulièrement, on peut avoir des marchés en commun, on peut faire des groupements, on peut... Alors évidemment, il y a des marchés sur lesquels on est concurrent et on va se faire la guerre pour voir un marché parce qu'il y en a qu'un et il y en a qu'un qui l'aura. C'est important de se mettre dans la tête des concurrents. Tout de même, déjà on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans la phase confidentialité au moment de l'acquisition, c'est important de pas ébruiter au niveau de la profession que vous êtes sur un dossier, que vous êtes en train de racheter, parce que l'intermédiaire qui a fait le screening, il a pas forcément identifié toutes les entreprises qui pouvaient potentiellement être intéressées. Donc là il faut maintenir la confidentialité au niveau de la profession. Et après oui, ça peut agacer un peu. Nous on est vigilant quand on fait une acquisition qui n'est pas d'incompatibilité, des gens avec qui on est très proche ou avec qui on travaille ou avec qui on a des marchés dans le cadre d'une acquisition, il ne faudrait pas qu'on se retrouve en frontal avec eux. Ça entamerait la relation d'affaires qu'on a par ailleurs préexistante avec eux.
Et toi, Fabrice ?
Moi, je trouve qu'il y a plein d'angles à cette question. Alors, vous aviez à évoquer certains angles, en fait, de ne pas aviver une concurrence saine et la rendre malsaine, moi c'est ce que j'entends. Et en fait, il y a d'autres angles à mes yeux, c'est quand on fait une acquisition, on dévoile sa stratégie. Donc, d'une stratégie qui était bien cachée, on fait une stratégie qui commence à être visible, donc fatalement, les concurrents vont adapter leur comportement. Donc, il faut être conscient qu'on est un petit peu plus vulnérable quand on a commencé à se dévoiler. Je crois que ça, c'est un premier élément. Et regarder ce que font les concurrents en termes d'acquisition en dit long sur leur stratégie.
D'accord.
Donc, je trouve que c'est un bon moyen de faire de la veille. Deuxième élément, quand on est dans des schémas d'acquisition comme nous, plutôt de petites boîtes, si dans un pays, on rachète une, deux boîtes, ça se passe bien, ça se sait dans la profession. Et finalement, les concurrents se disent « Pourquoi pas moi ?»
Okay. Et finalement, donc, ça fait du sourcing de dossier.
Complètement. Okay. Ça fait du sourcing du dossier. Et si on se met dans les associations pro pour côtoyer ces gens, il se génère des discussions qui peuvent rebondir un jour ou l'autre, à condition d'avoir des relations cordiales, quoi. Un dernier angle sur les concurrents, c'est que quand sur un marché, on passe d'acteur à leader, tout d'un coup, les salariés des concurrents se posent des questions. Et là, il y a une période de fragilité qui peut être le moment de capter des bons candidats. Entre guillemets, dans l'appel d'air que crée une croissance externe, il y a d'autres opportunités qui se présentent. Souvent, avec le dirigeant de l'entreprise rachetée, c'est intéressant de l'évoquer parce qu'il n'en est pas nécessairement conscient et que c'est un élément de synergie. C'est un élément de la donne qui évolue. Et là, je suis bien encore dans le spectre où c'est le dirigeant de la boîte rachetée qui continue à diriger. Voilà. Donc voilà, il y a tous ces petits aspects qui sont intéressants.
Avant de retrouver Stéphanie Frachet, la BPI, merci Fabrice, merci Xavier.
Très bien, merci beaucoup.
Merci Pierre.
Et dans le podcast numéro 4, on va parler des 100 premiers jours. Écoutons maintenant le point de vue de Stéphanie Frachet, celui d'une membre de conseil d'administration d'ETI qui accompagne entre autres des croissances externes.
Dans la tête du monde du conseil d'administration, que je suis, ou d'autres j'imagine, je pense qu'il y a d'abord la volonté, ou le devoir d'ailleurs d'administrateur, d'accompagner au mieux le dirigeant. Et l'intérêt quand même du conseil d'administration et des administrateurs, quand ils sont bons, c'est de permettre aux dirigeants de mettre sur la table tous les sujets, y compris ceux qu'il n'a pas encore imaginé, exploré, mais donc de le faire aller un cran plus loin dans la réflexion. Donc ça, je pense que c'est le devoir d'un conseil d'administration, c'est de encore une fois, de tirer le fil, de partir d'une base qui est déjà solide. Le dirigeant, il vient quand il est en général relativement bien préparé devant son conseil. revenir casser certains de ces préjugés ou de ces idées un peu préconçues au début, c'est très important. C'est ça, je pense, vraiment le job d'un conseil d'administration. Et moi, je l'ai nécessairement en tête en me disant, est-ce que je me suis posé, moi, les bonnes questions? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions, moi ou mes collègues du conseil? Est-ce que collectivement, on a su créer cette dynamique de groupe qui fait qu'on a permis de lever tous les lièvres, quoi? Dans un conseil d'administration, lorsqu'il y a des divergences, d'une part, il faut essayer de comprendre pourquoi il y en a, et de se comprendre entre ce qui est dit et ce qui est non dit. Il y a parfois beaucoup de non-dits, et le sujet vient probablement du fait que les intérêts ne sont pas alignés. Là où peut y avoir un désalignement d'intérêts, c'est souvent finalement l'horizon de temps. Je m'explique, c'est que l'investisseur, le fonds d'investissement, il est là pour une période donnée, il est là pour 4, 5 ans, et donc il réfléchit à des objectifs de croissance externe qui rentrent dans ce calendrier. Le dirigeant, en principe, il est là pour cette période de 4-5 ans avec le fonds d'investissement et il sera là sur la période suivante avec un autre fonds d'investissement pour 4 à 5 ans suivants. Et donc, il peut avoir une vision, lui, il doit avoir d'ailleurs une vision beaucoup plus moyen-long terme que ne l'a le fonds d'investissement. C'est là que la divergence peut venir, parce que son intention réelle, ce sera de dire « c'est pas le bon moment pour moi », mais il ne dira pas comme ça, il trouvera d'autres raisons. Il va s'opposer à cette acquisition, là où le dirigeant se dit peut-être « c'est la bonne acquisition, les trains passent une fois, il faut la prendre ». Il faut, moi je le dis avec mon biais BPI France en plus, nous on est toujours un investisseur long terme, donc ce genre de débat quand on les a au conseil d'administration, où il y a un fonds d'investissement privé plus classique, qui a un horizon de temps plus court, et le management qui peut avoir la vision évidemment beaucoup plus long terme. La garantie d'actifs passifs, c'est vrai que c'est un sujet qui fâche, hein, parce que par définition, on vient dire aux vendeurs, on t'achète, tu es très beau, mais en même temps, on pense que tu as un certain nombre de risques et on veut se protéger l'avenir de ce que tu as peut-être mal fait par le passé et qui peut s'avérer être un risque avéré et qu'on ne compte pas prendre pour nous, parce que c'est ta responsabilité quand tu étais dirigeant ou actionnaire de cette société. Donc par définition, on touche à un sujet où le dirigeant dit, mais non, mais moi j'ai tout bien fait, il n'y a pas de risque, et vous mettez en cause finalement soit mon honnêteté, soit ma bonne gestion des années passées. Donc on touche à un truc qui est très personnel. Or, ça ne doit pas être le cas. Je l'ai vu, ces garanties d'actifs et de passifs, pratiquées dans un certain nombre de cas sur des risques fiscaux, sur un risque avec un client, dans des cas de changement de contrôle, enfin bon, tous les cas de figure possibles. Et je pense que c'est important de tenir bon là-dessus et d'expliquer. C'est surtout, pour revenir à mon premier point sur l'aspect parfois vu comme très personnel pour le dirigeant de la cible, expliquer d'où on vient et rendre factuel autant que possible et pas émotionnel ce sujet sous-jacent.
Nous remercions Stéphanie Frachet, Xavier Neyze et Fabrice Prost de leur témoignage dans cette saga Les Conquérants.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez les centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.